Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions sur mon aventure à vélo de cet été et sur le Gravelman. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 350. Vous savez, dans ce podcast, je vous ai raconté comment je suis passé de 0 km par an à 350 km dans un week-end, comment je me suis lancé dans l'aventure à vélo. Alors que moi qui ne faisais pas de vélo du tout, hein, vous vous rappelez, hein, voilà, vous le savez, mon truc à moi au départ c'est la course à pied, et encore il y a quelques années c'était pas la course à pied, mais maintenant, eh ben, je vais faire le bilan voilà, de cette aventure finalement, mais je vais le faire le bilan à travers vos questions, parce que vous m'avez posé beaucoup de questions, j'en ai trié quelques-unes, j'ai fait un petit peu de tri, j'en ai gardé combien, une quinzaine, ouais, une petite quinzaine de questions, même s'il y en a certaines qui se recoupent un petit peu, il y en a 2-3 auxquelles j'avais un petit peu déjà répondu, donc je vais faire 2-3 rappels. Mais le but du jeu pour moi, c'est de faire un petit peu un bilan ben, de cette aventure vélo de cet été, hein, je vous rappelle, 1400 km en partant de Vichy, en montant le long de la Loire, pour ensuite aller récupérer l'océan, descendre ensuite direction Lacanau, puis Bordeaux, et puis je suis rentré en train à ce moment-là. J'avais prévu un moment d'aller plus loin, hein, de pousser un poil plus loin, et d'aller jusqu'à la Méditerranée. D'ailleurs, on m'a posé une question de pourquoi je l'ai pas pu le faire, pourquoi je l'ai pas fait, pourquoi j'ai pas fini sur la Méditerranée, parce que je n'avais pas le temps, en fait, j'ai pris du retard. J'ai pris beaucoup de retard en fait sur des sur mon parti de certains jours avec la pluie, avec le ce que j'avais prévu mal prévu en fait dans mes timings de temps, etc. Enfin pas mal de choses qui se sont goupillées pour que j'ai pris du retard et tout, ce qui explique en fait il m'aurait fallu finalement hein, 2-3 jours de plus pour faire ce que j'avais prévu au départ. Alors j'avais un peu expliqué dans l'épisode précédent. En tout cas, j'ai fait un bilan hein, et donc j'ai fait une petite vidéo dans laquelle j'explique ça. Vous trouverez dans la description de l'épisode, il y a un lien pour justement aller voir hein, mes explications. Je fais une petite vidéo, j'ai appris sur 3 points. Il y a une question de sommeil, une question d'alimentation, une question de durée de mouvement, etc. qui explique hein, que j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce que j'ai prévu au départ sur cet été-là. Donc voilà, donc il y a aussi des questions, alors toutes les questions sur le matériel, j'en reparlerai, mais j'ai une partie de la réponse aussi qui va avec le document, avec ce fameux petit document là, donc le lien est dans les notes de l'épisode. Maintenant, passons aux autres questions qui m'ont été posées, notamment sur mon ressenti, mes enseignements, si c'était à refaire. Alors, je peux y répondre, je crois que la question a été posée au départ sur mon voyage à vélo, mais je peux y répondre aussi sur la partie Gravelman, tout simplement. Mon ressenti, mes enseignements de l'aventure globale hein, sur cette histoire vélo, c'est que je me suis découvert un nouveau truc qui m'a beaucoup plu sur le vélo. Vraiment beaucoup, le fait de rouler, le fait de découvrir qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Ça a bien animé mon petit enfant intérieur. Ça m'a rappelé que j'adorais rouler quand j'étais gamin, que je passais des heures sur mes vélos, mon VTT, j'allais à droite, à gauche, j'allais voir des copains qui, des fois, étaient à 15, 20 kilomètres, enfin, des trucs un peu comme ça, ou des fois, je passais des journées dessus. Donc, ça m'a rappelé un petit peu ça, en fait, un petit peu cette liberté qui est beaucoup plus grande qu'en courant. Franchement, il y a une liberté en vélo qui est beaucoup plus grande qu'en courant, tout simplement parce qu'on peut aller plus loin, parce qu'on peut amener plus de matériel, parce que on peut aller voir des choses un peu différentes, ça change notre horizon en fait hein, tout simplement. Je dis hein, sur le dire que aller voir l'océan comme ça par la force de mes jambes, c'est quelque chose qui me semble juste incroyable de dire comme ça. Faire Paris-Deauville me semble juste incroyable aussi en disant j'ai fait par la force de mes jambes, même si j'ai dévié de la trace et que j'ai pas la trace gravel pure. Ça m'épate. Oui, ça m'épate qu'on soit capable de le faire par la force de nos jambes. Bien sûr qu'on pourrait le faire à pied, mais ça mettrait beaucoup plus de temps. Là, en une journée, c'est vrai que j'ai fait des fois 200 km, j'ai fait des 510 km, 200 km, 190 km, des choses comme ça. Et ça, je l'avais pas du tout conscience, en fait, de cette capacité à pouvoir le faire. Et puis c'est sûr qu'au départ, je partais à zéro, hein, donc le premier jour, quand j'ai fait 20 bornes, j'étais content de moi. Donc j'étais loin, enfin, le but du jeu, c'était bien sûr d'en faire 350 sur le week-end, mais j'étais loin d'imaginer en fait que je pourrais le faire comme ça, des jours à 100, 150, comme ça, les enchaîner, etc. Donc ça, c'est mon gros ressenti, c'est que j'ai découvert en fait un nouveau monde, un nouvel univers et tout. Mes enseignements, vraiment, c'est que je me suis beaucoup amusé sur la partie voyage à vélo cet été, le bikepacking et tout, et que je me suis beaucoup amusé sur la partie gravelman, parce que je crois, hein, mais je pense, hein, vu comme ça, que la manière de rouler sur le partie voyage à vélo me plaisait plus et plus dans ce que je recherche actuellement que la partie gravelman. La partie, en tout cas, aventure à la Steven Yarrick, où c'est il a dur de la caillasse, etc. Ce truc là en fait, c'est pas ce que je recherche. Par contre, partir sur quelques jours comme ça avec mes affaires, bikepacking, me laisser aller un petit peu par la route, m'arrêter au gré des découvertes, des boulangeries, des endroits où je peux me poser, etc. Ça m'a beaucoup plu. J'ai quelques journées souvenirs, par exemple sur mon voyage à vélo, sur lequel j'ai des jours par exemple où je m'étais arrêté faire la sieste dans l'herbe, le jour à la cano par exemple où je me baigne à la fin, mais on va dire toute la descente de l'océan, même s'il y a eu des jours où le temps n'était pas très beau, mais me dire tiens, je me suis arrêté manger des frites à Saint-Hilaire-de-Riez, j'ai ma pause à Montalivet, des choses comme ça qui étaient des choses qui n'étaient pas du tout prévues, comme même prendre le bac et tout, enfin c'est des trucs qui étaient même pas qui étaient pas du tout prévus, mais dans lequel en fait j'avais fait une carte globale et dans lequel je me suis laissé guider en fait par un peu la route, par un peu les rencontres que j'ai pu faire, par un peu les choses qui m'ont attiré, etc. Ça par contre, c'est vraiment le truc qui m'a plu. Et donc mon grand enseignement en fait, c'est que si vous avez envie de partir à l'aventure, tenter un truc comme ça, vous n'êtes pas obligé de partir 10 jours comme je l'ai fait, vous pouvez juste partir 2-3 jours. Moi, je l'ai fait sur 10 jours parce que j'avais envie d'aller voir l'océan, j'avais envie d'avoir ce truc d'aventure qui était un peu plus large, etc. Quand je l'ai prévu au départ, j'avais besoin de ça, en fait, très clairement. J'avais besoin d'avoir cette côté voyage, etc., d'aller un peu plus loin, de partir quelques jours de plus. J'avais ce créneau-là qui était possible. J'avais pas envie de partir en train, en fait. J'avais vraiment envie, cette idée-là, au départ, de dire je pars de la maison en vélo et, si possible, je voulais rentrer en vélo. Alors après, j'avais commencé à longer en disant, si je veux faire ça, j'aurai de toute façon le retour en train. Donc ça s'est goupillé comme ça. Et puis j'avais envie d'aller voir des choses que je n'avais pas vues. Je n'avais pas souvenir d'être allé dans certains de ces coins-là ou alors différemment et tout. Et donc vraiment les enseignements, et c'est un enseignement pour vous aussi, c'est que si vous avez envie en fait d'avoir ce genre d'aventure et tout, en fait d'une part c'est possible assez facilement. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire comme moi je l'ai fait en mode bikepacking pur et tout. Vous pouvez prévoir des choses plus que ça. Mon enseignement après, dans la fameuse vidéo là dont je vous parle et qui est dans notre épisode, il y a un enseignement, c'est que sur l'aventure vélo, la prochaine fois je prévoirai des distances, en tout cas une distance globale plus courte ou plus de jours pour la même distance, mais en tout cas une moyenne journalière plus courte, même si ce défi de l'été avait été prévu pour préparer le gravelman dans le même. La prochaine fois, je le ferai d'une manière un peu différente, en plus cool, en tout cas sur la distance globale, avec des étapes potentielles, en me disant bah tiens, je peux aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, mais pas avoir le sentiment de devoir courir en fait après quelque chose systématiquement. Et ça, c'est mon grand enseignement, il est là-dedans. Après, il y en a d'autres et j'en parlerai un petit peu sur le matériel, mais voilà, c'est vraiment ce truc-là, c'est de dire, maintenant, je sais que je suis capable de le faire, je l'ai fait, je sais que je suis capable de le faire, je sais ce qui me plaît dans le vélo, je sais ce qui me plaît pas, Et c'est pas de passer des heures sur le vélo qui me plaisent pas, en fait. C'est ce qui m'a pas plu dans le Gravelman, en fait, c'est le terrain, en fait. Voilà, c'est ce terrain, ce côté de recherche de la difficulté pour la recherche de la difficulté. Voilà, je vois comme ça, moi, en tout. Peut-être que c'était pas le, mais en tout cas, je le vois de cette manière-là. Dire, c'est la recherche de la difficulté pour la recherche de la difficulté. Et c'est pas ce que je recherche, moi, en fait. Voilà. Donc, c'est, faut le savoir. Faut le savoir quand on se lance là-dedans. Et, mais c'est comme ça. Marc, qui me dit, salut, après le 120, tu essayes de travailler la technique, terrain plus difficile. Sinon, pourquoi? Alors, j'ai essayé, j'ai prévu des choses, notamment de dire, je vais les rouler. Alors, j'ai pris des chemins pas très faciles. J'ai même pris des endroits où, par exemple, quand je suis parti en Bourgogne et tout, j'ai pris des endroits où il a fallu porter le vélo, j'ai eu traversé de champs, j'ai eu des tout un tas de choses comme ça. Et en plus avec le vélo chargé, donc et autres, sur cet été, sur la partie, sur mon voyage à vélo, j'ai eu des endroits avec de la pierre cassante, de la caillasse, j'ai eu des... Parce que j'ai pris des chemins différents, en fait, il y a des moments en fait où j'ai essayé justement de sortir des terrains, c'est-à-dire que j'ai même roulé dans du sable, je me suis même retrouvé dans le lit de la Loire à un moment donné, hein. Donc me dire merde, comment je fais en sortant de là, mais j'ai essayé j'ai pris des montées très pentues avec de l'herbe, avec des trucs glissants, etc. J'ai essayé de prendre pas mal de terrains différents et tout. Ce que j'avais moi en fait c'était le et ce que je n'ai pas pu travailler, alors ça c'était intravaillable, c'est que j'ai roulé beaucoup sur du sec pendant moi tout l'été, j'ai roulé quand même beaucoup sur du sec, tout mon voyage à vélo, même si j'ai eu beaucoup d'humidité, de pluie, globalement il y a eu du vent, de la tempête, etc., mais en fait je n'ai jamais eu autant de boue, de gadoue que ce qu'il y a eu sur la partie Gravelman. Et de trouver des pierres cassantes façon silex, etc., j'en ai eu un petit peu sur certains de mes trucs, mais j'en ai pas eu autant, en fait. Et c'est ça en fait qui est difficile à préparer. Et je l'ai dit en fait à l'arrivée du 120, j'avais discuté avec Céline et Yarick en me disant, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce que t'en penses alors et tout, et j'avais dit que le bilan que je fais, c'est que les gens, et c'est un bilan que je voudrais vous préparer pour vous dire sur le Gravelman, sur la partie gravel, parce que la partie route, je sais pas. En tout cas, c'est, je lui ai dit, on se prépare à faire du vélo, mais en fait, il y a un truc qui est difficile à préparer, c'est le côté aventure ou je sais pas quoi. Il me dit, l'aventure, c'est quand on commence à sortir des chemins, il me dit, si tu restes sur les pistes cyclables, etc., ou sur les chemins qui roulent bien, c'est plus de l'aventure. Je dis, mais en fait, c'est juste que moi, quand je dois faire le bilan, si quelqu'un me pose des questions sur comment préparer Gravelman, en tracé gravel et tout, il y a quand même un côté qui va être important de rappeler, c'est de dire que il y a le côté caillasse, passage par des endroits qui sont super compliqués. Sur le Gravelman Auvergne, il y a un endroit, il y avait un mur où il fallait porter le vélo. Moi, je l'ai passé à 20h, 21h, où des grosses pierres, où il y a 25% de pente, c'est juste pour couper entre deux virages. Donc, il y a un côté... peut-être rigolo sur l'instant, etc. Mais sur l'instant, c'est pas rigolo. Après, on se dit, ouais, c'est marrant d'avoir fait que ça et tout. Mais sur l'enchaînement, en fait, c'est juste super compliqué, en fait. Et c'est ça qui est difficile à préparer, moi, je trouve. C'est l'enchaînement de trucs compliqués pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et ça, c'est super compliqué à préparer pour trouver des chemins comme ça. Bon, la gadoue, c'était impréparable, hein, franchement, moi je peux le dire. Trouver autant de chemins cabossés, autant d'enchaînements aussi longs, etc., c'est super difficile. Même dans l'Allier, même par exemple quand j'allais traverser, quand je suis allé rouler en forêt de Randan, il y a des chemins forestiers où j'ai passé avec de la boue, j'ai passé avec du vent, etc. Je n'avais eu aucun chemin aussi défoncé que ce qu'il y a eu sur les forêts. Pour aller sur le Paris-Deauville, notamment il y a des forêts qui avaient des trous mais qui étaient énormes, en fait c'est marqué attention engins forestiers qui passent, etc. Donc il doit y avoir des énormes camions, des tracteurs énormes qui passent, enfin pour aller chercher le bois et tout, ça faisait des trous des fois de 1 mètre de profondeur, en fait c'est plus des ornières, enfin c'est des gros trous qui étaient remplis de flotte, donc ça faisait des grandes piscines et tout. Il y a des, enfin je dis 1 mètre, oui, alors pas rempli d'1 mètre d'eau, mais qui en profondeur même, on voyait, était bien rempli d'un mètre et dans lequel les roues, plus de la moitié de la roue en fait était largement recouverte en fait, donc il y avait 30 cm d'eau, 30-40 cm d'eau, plus la profondeur de la terre autour. Je n'avais pas vraiment vu ça en fait. Par exemple sur Rendant, même dans les montées, même dans les chemins un peu merdiques où il y avait des ornières, des trous, des grosses flaques à passer, les terrains sont plus souples en fait, plus faciles. Donc je n'avais pas en fait ce genre de terrain très clairement et voilà. Et après. Je pense que c'est ça qui est compliqué à trouver en fait, c'est trouver des terrains vraiment très durs qui passaient. Ça se trouve, hein, j'ai roulé aussi sur des champs. Par exemple, j'avais roulé sur des terrains un peu type agricole en fait, et puis des bordures de champs, des choses comme ça. Je m'étais amusé à rouler sur des temps, sur des autour de champs. J'avais roulé dans de la glaise, etc. Là, j'en ai pris de la glaise aussi sur le gravelman. Mais l'enchaînement global, en fait, sur autant de temps, je l'avais pas. Je pense qu'il est difficile à préparer. Il est très compliqué à préparer, à enchaîner comme ça, etc. Et en tout cas, moi, c'est pas en plus ce que je vais rechercher de passer des heures là-dessus. C'est-à-dire, je vais chercher en fait une variété de dire, bah tiens, il y avait plein d'endroits, j'ai coupé à travers par exemple, des champs, j'ai coupé à travers les maïs, j'ai coupé à plein de trucs comme ça pour préparer. Mais l'enchaînement global, autant en enchaînement, je l'ai pas eu. Et ça, je pense que c'est compliqué à préparer. J'en reviens à ce que j'avais dit à Stéphane Lurie. J'ai dit ce qu'il faut préparer, en fait, on peut dire ce qui me fait peur, c'est de faire la distance en vélo, c'est de rouler autant, etc. Mais en fait, ça, ça se prépare relativement facilement de rouler autant. Je le dis. Mais par contre, de rouler autant sur des terrains comme ça, ça se prépare. Je pense que c'est plus compliqué à préparer. Et Marc encore m'avait posé une question. J'ai l'impression qu'à vélo tu n'as pas fait de qualitatif fractionné par exemple. Si en fait. Alors ça s'est moins vu. J'ai fait par exemple notamment sur le. Alors je l'avais fait un petit peu tant que j'étais autour de la maison et tout avec d'aller faire des côtes. J'ai fait des journées avec des sorties type côte etc pour m'entraîner à monter, pour monter un peu. Alors des fois pour mouliner, des fois pour monter plus en force, mais t'entraîner à faire de monter en danseuse aussi, de rouler en danseuse, etc. C'était des conseils que j'avais eu, notamment Adeline qui m'a dit qu'on en avait parlé, de changer de position, s'entraîner à faire de la danseuse, s'entraîner à mouliner, à monter des trucs, etc. Je me suis entraîné aussi à rouler, à faire des séances, on va dire, qui seraient plus alors du fractionné pur, un petit peu, notamment. Sur l'été, en fait, j'en ai fait un petit peu là sur mon voyage bikepacking. Il y a des moments en fait où je me mettais des créneaux en disant bah là je vais accélérer sur ce temps-là, hop, et faire des accélérations et tout. Donc ça, je l'ai fait. Je me suis entraîné aussi à rouler sur des choses qui se rendraient plus à du seuil aussi, un petit peu de seuil long en fait, en disant bah tiens, je vais rouler pendant 20 minutes, 30 minutes, une heure, tout à une allure définie, puis la tenir le plus longtemps possible, avec en plus le vélo qui était chargé, hein, donc avec un ravitaillement, les affaires pour dormir et tout. Donc j'en ai fait une forme, alors pas aussi structurée qu'en course à pied, dans un plan d'entraînement, etc. Et pas aussi structurée que si je faisais du home trainer, si je faisais du Swift ou des choses comme ça. En fait, moi, je pense que et c'est exactement pareil que sur la course. Sur la course, je déteste courir sur tapis. Je n'ai pas de tapis à la maison et pour l'instant, j'ai pas non plus de home trainer. J'ai pas prévu d'investir dans un home trainer, dans un Swift ou quoi que ce soit. Alors, je dis pas qu'un jour, c'est pas un truc qui pourra arriver, hein, mais moi, ce qui me plaît en fait, c'est de rouler dehors, c'est de prendre le plaisir d'avoir l'air sur la figure, de ce truc-là en fait. C'est ça qui me fait plaisir. Et c'est vrai que trouver il y a des alors séances de côte, oui, il y a des moments où il y a des trucs je faisais exprès, il y a des journées je faisais exprès j'avais des parcours j'aime prendre 5, 6, 7 pentes etc pour les monter. Ce que je n'ai pas trouvé par contre, j'ai pas fait de montée type alors un petit peu des petits cols, des choses comme ça, mais des montées par exemple sur Paris-Deauville il y a des montées mais sur la partie route il y a des montées genre 4 km de montée avec à un moment un truc un peu raide, etc. Mais c'était l'enchaînement de ces montées, de ces descentes, etc. Qui était intéressant qui était casse-pattes et tout à la fin, que j'ai moins pu travailler. par le, la force des choses, en fait, hein, par le, même si en roulant autour de Vichy en montagne bourbonnaise, par exemple, il y a ce genre de montée. Globalement, en fait, l'enchaînement, je leur dis, en fait, c'est cet enchaînement-là que j'avais pas. Voilà. Alors après, est-ce qu'il aurait fallu, alors moi, j'ai pas le fait, j'ai pas regardé les parcours des autres années, voir un petit peu comment ça se passait. Le dénivelé était sympa, mais était pas extraordinaire sur le Paris-Deauville comparé à ce que je par rapport au Gravelman Auvergne par exemple. Donc j'avais manqué peut-être un poil de dénivelé, hein, ça c'est peut-être un truc. Mais en fait, ce qui m'a vraiment, c'est pas trop les montées en fait, hein, qui m'ont posé problème vraiment sur le truc. C'est vraiment le côté sur le, l'enchaînement de caillasse, l'enchaînement de boue et tout, qui au bout d'un moment, c'est, ça m'amusait plus du tout. Et ce qui m'amène à la question de Jean-Philippe qui m'a demandé c'est quoi le plus dur, le côté mental ou le physique. Franchement, physiquement, j'aurais pu... bah, d'ailleurs, en plus, sur la distance, je l'ai faite, et puis le lendemain, je continue à rouler, etc. Sur le Gravelman, en tout cas. Hein, sur le voyage à vélo, c'est vrai qu'il m'avait beaucoup fatigué, et donc je pense que sur la longueur, sur les nuits trop courtes, etc. Mais franchement, sur le Gravelman, j'ai passé une nuit dehors. J'ai roulé, donc la première journée, je fais 170, je crois, ou 180 km. Donc le lendemain, j'en fais, pour monter à 350, je fais pas 350, je fais un peu moins de 350 pour arriver à Deauville, donc voilà, mais enfin j'en fais une bonne partie aussi le lendemain, on va dire. J'ai pas fait mes calculs précis parce que la dernière journée j'avais découpé en plusieurs morceaux. Physiquement en fait, c'est pas le problème. Mentalement en fait, il y a à bout d'un moment, l'enchaînement comme ça est devenu pénible, et puis il y a aussi ce côté de prendre la pluie. D'être tout seul, des fois dans des endroits, chercher le passage précis, enfin d'avoir de glisser dans tous les sens, etc. C'est ce côté mental qui, au bout d'un moment, m'a gavé en fait. Et puis ce truc de dire, je vois le temps qui défile. J'ai eu de la casse un jour. Il y a la flotte. Je vois que je roule pas aussi vite que je veux. Mentalement, je me suis dit, j'ai pris tellement de retard sur une partie que comment je peux arriver finalement à boucler le truc, boucler dans les conditions que je veux, pouvoir rentrer ensuite, etc. Donc c'est vraiment mentalement qu'au bout d'un moment j'ai dit ça m'amuse plus, et je vois pas comment je peux boucler comme je veux, etc. Et c'est là aussi où alors j'ai réfléchi des heures et tout. Je me suis arrêté pour manger, je me suis arrêté pour faire une pause, pour dire, bah tiens, parce qu'on m'avait donné le conseil, on m'a dit, prends pas de décision tant que t'as pas mangé, tant que t'as pas dormi un petit peu et tout. Mais très clairement, y a un moment, j'ai dit, ça m'amuse pas, quoi. Le truc m'amuse pas. Donc j'avais repris la trace, à un moment j'ai perdu la trace. Quand je la reprends, je me retrouve sur des caillas, sur des silex, sur des trucs qui rebondissent dans tous les sens, etc. Et je me dis, là, ça m'amuse plus du tout, le truc. Et c'est là, donc c'est vraiment plutôt mental, en fait, Jean-Philippe. Xavito, tu vas en refaire un ou une autre course? Gravelman, je l'ai dit, je n'en referai pas un. Vous savez que j'avais prévu, j'avais dit notamment, et j'en avais parlé avec Thibaut dans l'épisode de Kilomètre 42, j'ai dit, bah tiens, on pourrait faire le Gravelman Flandre. J'avais dit, bah tiens, chiche de se retrouver sur Gravelman Flandre. Pour l'instant, en fait, je l'enlève de mon programme. Voilà. Alors, ce qui serait peut-être potentiellement à faire un jour, ce serait de faire un Gravelman, mais route, pas un Gravelman Gravel. Pourquoi? C'est parce que le Gravel, de cette manière-là, pardon, ne m'intéresse pas. Je le répète en fait, c'est-à-dire que moi cette vision gravel qu'il y a dedans ne m'intéresse pas. J'aime cette plutôt en fait dans moi dans ce que je voyais dans le gravel, c'était un petit peu de qui est un petit peu un mix, etc. Mais cette vision gravel là ne m'intéresse pas, voilà tout simplement. Après je comprends qu'elle intéresse certaines personnes et tout, mais pour moi c'est pas mon kiff. Donc à partir de là en fait, je vais pas reprendre le risque d'aller sur un autre gravelman en trace gravel. Sur un truc qui est pas mon kiff, quoi. Voilà. Donc Pour l'instant, j'ai pas envie parce que je me dis bah si c'est pour en fait, j'irai à reculons en fait. C'est-à-dire que j'ai pas envie en fait. Donc pour l'instant, j'irai à reculons. Alors une autre course, oui. On m'a dit tiens, tu pourrais aller faire telle course, il y a tel truc qui est peut-être plus dans ton esprit, etc. Alors potentiellement oui, sur d'autres courses oui. Peut-être aussi me dire il y a peut-être des événements où il pourrait y avoir une course par exemple sur une journée genre 80, 100 km sur une journée, des choses comme ça. Voilà, des trucs comme ça, peut-être, potentiellement. Je dis, je suis ouvert à toutes les idées, toutes les choses comme ça. On m'a dit, tiens, tu peux aller faire, alors je sais plus laquelle c'était, mais sur lequel il y avait, on m'a dit, les chemins sont plus roulants, c'est plus bikepacking, l'ambiance, etc. Enfin, voilà, on m'a suggéré des choses. Mais en attendant, le Gravelman, Trace Gravel, c'est non. Et et on m'a dit plusieurs fois, on m'a dit oui, ça coûte les déceptions et tout. On m'a posé plusieurs fois la question de différentes manières. Et je le répète, pour moi, le Gravelman, en tout cas, Trace Gravel, c'est terminé. Voilà, je n'ai pas envie d'y retourner. Je l'ai vu sur l'Auvergne. J'ai vu sur le Paris-Deauville. J'ai vu ce que c'était. Et j'ai vu que ça me... Sur l'Auvergne, ça m'a plu parce que c'était le premier, parce que c'était la première fois, les 120, même plus que 120, parce qu'il y avait 140 même. J'ai apprécié le truc, j'étais content, j'étais fier de moi, etc. Sur le Paris-Deauville, ça m'a pas du tout amusé sur la durée. Et puis il y avait une grosse différence aussi entre le Gravelman Auvergne et le Paris-Deauville, c'est que sur la partie Auvergne, en fait, il y a eu à un moment donné, on a eu du roulage sur des routes, sur des petites routes, on a eu l'alternance entre des chemins vraiment... plein de cailloux, plein de difficultés et des trucs plus roulants. Donc il y a cette alternance en fait qui permettait aussi de se reposer un petit peu sur le plan de souffler un peu, de rouler plus tranquille, etc. Enfin, et je me rappelle que il y avait eu une discussion à l'arrivée. On est parlé avec deux trois personnes et même qui a dit ouais, c'est les petites routes à tel endroit, c'était cool d'avoir l'agencement de route, d'avoir ces chemins-là, de pouvoir rouler un peu différemment après les caisses du début, tout. Enfin. Cette alternance-là sur la Paris-Deauville n'existe vraiment pas du tout en fait. Cette alternance-là n'existe pas du tout. Voilà, j'ai pas envie d'y retourner en fait. C'est pas ma vision en fait de ce qui me plaît en fait. Dans ce que j'ai testé, c'est pas ma vision de ce qui me plaît. Donc, autre course, oui, Gravelman. En tout cas, Gravel, non. Pascal, alors là on rentre dans des questions qui sont matérielles, donc c'est intéressant aussi parce que je sais que vous avez eu beaucoup de questions matérielles. As-tu découvert un nouveau défaut, une nouvelle qualité à ton vélo après autant de kilomètres? Alors, qualité, bon, même si on peut dire j'ai cassé un rayon, franchement, alors j'ai pas regardé mon total de kilométrage global que j'ai fait avec le vélo parce que en quelques mois quand même on en a fait tous les deux hein, ensemble hein, du parcours je suis en train de le chercher en même temps pendant que je continue à chercher mes réponses à la question comment dire, on a fait 4416 km avec le vélo donc sur les 4400 km qu'on a pu faire ensemble et notamment les 1400 là sur d'affilée franchement j'ai pas eu de casse mis à part cette histoire de rayon là qui a cassé mais j'ai pas cassé de pièces quoi que ce soit mes roues une fois que la roue était que le rayon était changé la roue était finalement en bon état le vrai défaut en fait sur ce vélo c'est les freins. C'est les freins sur la fin, je pense qu'ils sont il faut que je change les plaquettes, etc. Je pense que là et je trouve qu'il manque un peu de puissance en freinage, notamment dans les descentes un peu raidasses, dans les trucs qui rebondissent un peu. Ça c'est une certitude. Je pense que c'est un défaut en fait. J'ai l'impression que c'est un défaut de beaucoup des gravels en tout cas chez d'entrée de gamme. Même si là on est plus dans l'entrée de gamme, et puis chez Decathlon d'entrée de gamme c'est sûr, mais même sur ce modèle-là, je pense que c'est un truc. On m'a beaucoup dit les roues en fait, on m'a dit oui il faut changer les roues sur ce vélo, les roues sont lourdes et tout. J'ai vu des vidéos, t'as des personnes qui changent des roues, qui mettent des roues plus légères, qui avaient plus d'entraînement, etc. Ce qui est sûr c'est que ce que j'envisage dans le futur, d'aller sur d'autres types d'aventures, de terrains, etc. aussi, c'est que je mettrais bien un autre jeu de roue, en fait, de pouvoir, je vais attendre un petit peu, de pouvoir un petit peu avoir un peu d'argent pour changer peut-être des roues, et avoir des roues aussi, pouvoir peut-être mettre des roues pour aller rouler sur de la route et tout, garder le cadre, et avoir de l'alternance, de dire il y a des jours, je vais partir avec des roues plus larges, et puis d'autres jours, avoir préparé en fait des trucs qui soient plus route, voilà, ou alors... des fois, j'ai pas besoin d'avoir des roues larges comme ça sur les terrains, type que je peux avoir des fois sur des les champs de les terrains agricoles, etc. Même si franchement, ça c'est confortable, ça rebondit un peu dans tous les sens, mais c'est confortable et tout. Mais je pense que c'est ce type de d'avoir des roues plus fines et peut-être qui avancent un peu plus quand il y a des roues, quand il y a des jours où j'ai plus de route que de gravel, peut être intéressant. Je pense que c'est des adaptations du poste de pilotage. Je l'avais dit, l'idéal, ça serait de faire une petite analyse morphologique, de voir un peu les positions. Moi, j'aime bien la largeur du guidon, j'aime bien comment il est fait. Je pense que j'ai une question de position un petit peu à régler sur ma position de bras, en fait. Des fois, je suis un poil loin sur certaines positions, sur comment j'ai mal aux fesses, comment je me replace sur le vélo. Enfin, voilà, des trucs comme ça, mais qui pour moi viennent pas du vélo, mais viennent plus du bonhomme. Et du réglage du vélo et du réglage par rapport au bonhomme, ça c'est sûr. Il n'y a pas de gros défauts, franchement, même les passages de vitesse, j'ai entretenu, j'ai nettoyé les chaînes, j'ai fait un peu tout ce qu'il y avait dessus, j'ai pas eu de casse, j'ai pas eu de problème, donc je peux pas dire que le vélo, franchement, il ait posé vraiment de problème. La case d'un rayon, ça arrive. Ce look là où je l'ai pris, c'est, je pense que franchement, il y a de la gadoue, il y a des grosses branches et tout, et je pense qu'il y a vraiment une grosse branche qui a arraché, ça fait un bruit mais fou sur ce truc là donc là, sur ce coup là pour moi c'est ça, en fait, hein, tout simplement c'est ce truc, c'est ce passage là où je passais à un endroit où il y avait vraiment plein de branches en plein milieu et il fallait pas que je passe là. Voilà, et donc ça arrive. Et mais vraiment je pense que c'est les freins qui manquent peut-être un peu de puissance. Voilà, sur le Pascal, franchement, je pense que c'est ça. Pour le reste, je vois pas de gros défauts. Et je vois une qualité, c'est que il m'a amené là où je voulais, il m'a amené avec le matériel que je portais dessus, hein, en le chargeant avec une sacoche à l'arrière, une sacoche de sel, une sacoche de cadre, guidon, enfin voilà, mettant le poids et tout, en disant tiens, il y a aussi des œillets pour mettre des choses sur la fourche. Enfin voilà, grosso modo. En bikepacking, par exemple, il est nickel. Hein. Peut-être qu'on va me dire, c'est peut-être un poil lourd sur des choses, etc. J'ai regardé après les vélos, j'ai regardé au début les vélos de ceux qui se lançaient sur la trace gravel et tout. Il y avait beaucoup de vélos un peu plus légers, un peu plus, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup de décathlon, il n'y a pas beaucoup de tribans, sur la course. Peut-être même le seul d'ailleurs. En tout cas, que j'ai vu moi quand j'ai roulé, avec les gens avec qui j'ai roulé. Mais franchement, il roulait, j'ai rien à dire, quoi. Je peux pas dire. Alors peut-être que si j'ai essayé de plein de vélos, je pourrais dire oui, il est un peu plus lourd que ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais j'ai pas les comparatifs. Donc pour moi, pas grand chose à dire là-dessus. Clément, peux-tu nous présenter l'équipement utilisé pour cette aventure? Alors, je leur dis, j'ai fait une liste complète du matériel que j'ai apporté. On va dire que grosso modo, que ce soit pour l'aventure, parce que après j'ai des questions sur est-ce que j'ai amené, est-ce que je suis content de ce que j'ai amené. Donc je rappelle, en fait, j'avais trois sacoches, une sacoche avant, une sacoche de sel et une sacoche de cadre. Sacoche avant, dedans, j'avais sur les deux aventures, soit l'aventure vélo et l'aventure et le gravelman, j'ai pris de quoi dormir. J'avais dedans couverture de survie, sac de couchage et un hamac. Voilà. Dans la sacoche de sel, j'avais un réchaud, ma cafetière. Et ça, c'est peut-être un truc sur le gravelman, fais pas jamais la cafetière, mais ça c'est autre chose. Le réchaud, peut-être je pouvais m'en passer, mais ça c'est une question en tout cas. Enfin voilà, mais moi c'est mon côté aventurier bikepacking qui voulait le faire comme ça. J'avais une serviette type Décathlon, vous savez, microfibre. J'avais pris mon maillot de bain, j'ai pris un short de rechange, chaussettes de rechange, t-shirt de rechange. J'avais pris un repas lyophilisé, un ou deux repas lyophilisés. J'avais de quoi manger des graines, des oléagineux, j'ai des barres NutriPure. J'avais des protéines en poudre aussi en complément. J'avais qu'est-ce que j'avais? J'avais des boissons d'effort, de la Pyrone aussi. J'avais en boisson d'effort. Donc ils sont mes partenaires hein, sur la course, sur plein de trucs. Donc NutriPure à Pyrone. Et puis qu'est-ce que j'avais? J'avais une power bank. J'avais changé d'ailleurs sur le Gravelman parce que celle de mon, celle que j'avais amenée pour l'aventure sur les 10 jours de vélo. Je pense qu'à la fin, elle était un poil... Bon, en plus, je l'ai fait tomber, donc elle commence à être un peu naze. Et puis, en charge, en rapidité de charge, elle était pas terrible, elle était un peu vieille. Donc, j'en ai pris une autre qui était moins puissante, mais qui est plus rapide, en fait, à délivrer. Qui m'a largement suffi, en fait, hein, franchement. Elle était deux fois moins puissante, mais elle était plus légère, donc plus fine, plus facile à passer aussi. Voilà, l'un dans l'autre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'avais aussi un phare avant, une petite lumière à l'arrière, ma frontale, bien sûr. Je dis bien sûr parce qu'au départ, j'ai un doute sur la frontale. La frontale fait partie du matériel obligatoire. Alors, il y a les épisodes matériels hein, en fait dans lesquels j'en avais parlé, matériel obligatoire, etc. La frontale, franchement, sur l'aventure bikepacking, très pratique, notamment parce que quand j'arrête le soir pour m'installer pour dormir. Bah, c'est pratique dans une frontale, pour faire le repas c'est pratique, pour charger, décharger le vélo c'est pratique, pour marcher dans la forêt comme je l'ai fait un soir c'était pratique, enfin voilà, il y a des trucs dans le genre là qui étaient quand même très pratiques. Donc la frontale c'est pratique, même en roulant, quand on tourne la tête, etc., ça permet de voir ce qu'il y a à droite à gauche, en éclairant là où on regarde, et pas seulement le phare. Le phare c'est bien parce qu'il éclaire une partie de la route, et la frontale en complément c'est vraiment très pratique. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Un couteau, une fourchette pliable... j'avais même une deuxième petite batterie en fait sur l'aventure vélo de l'été que je n'ai pas pris sur le Gravelman parce que elle a fini par claquer. Très pratique hein, mais elle a fini par claquer. Il y a un truc et d'ailleurs alors c'est partie des questions qui m'ont dit est-ce que j'ai assisté des affaires amenées et est-ce qu'il y a des équipements utilisés dans certains j'aurais pu me passer des trucs en trop ou pas assez. On peut dire que grosso modo, si on est dans l'esprit course, j'aurais pu me passer du réchaud, ben voilà, et je pouvais me passer donc de ma cafetière. Alors la cafetière, c'est sûr, là c'était pour mon petit plaisir, j'étais parti dans l'idée de me faire des cafés, sur l'aventure vélo, de me faire un café au bord de la mer, de l'océan, pouvoir m'en faire si j'avais besoin, etc., me réchauffer. Et sur le Gravelman, j'avais cette vision aussi de me faire un café à Deauville, au bord de la mer, et puis dans l'eau, ce que j'ai fait le dimanche matin. Voilà, donc ça, pour moi, c'était aussi... quand j'avais... je l'ai mis dans ma liste de cadeaux de Noël une année, cette cafetière portative, qui est une Aeropress Go. Et je l'avais mis parce que c'était là, au début, quand j'ai commencé à avoir l'idée de vélo, etc. Et je l'ai mise parce que je me dis, j'ai envie d'avoir ce truc de... Je pars avec la cafetière, la capacité à aller à un endroit, me faire un café au lever du soleil et rentrer, que ça soit en courant ou en vélo. Et depuis le début, en fait, je suis scotché sur cette idée-là. Et donc, je suis parti avec. Voilà. Alors, bien sûr, si on prend le truc, on peut dire ça alourdit le vélo. Ça modifie l'équilibre du vélo parce qu'il fallait mettre aussi une petite cartouche de gaz. Mais franchement, je veux dire, mon café le dimanche matin à Deauville, j'ai vraiment apprécié. D'avoir un réchaud, je l'ai apprécié parce que le samedi matin, au moment de repartir, je me suis fait un vrai petit déjeuner. Et en faisant un porridge dans lequel j'ai pu mettre donc flocons d'avoine, j'ai pu mettre des fruits secs, j'ai pu me faire un petit café pour me réchauffer, etc. parce qu'on avait passé la nuit dehors. Enfin voilà. Enfin, sur le coup, je l'ai apprécié. J'ai apprécié sur l'été aussi de me faire un jour des pâtes chaudes, tout après alors qu'il faisait un peu froid. Enfin voilà. Donc ça, je l'ai apprécié. Dans les équipements que je peux utiliser, c'est le hamac. Je l'ai raconté hein, et je raconte aussi dans la vidéo bilan là dont je vous propose en bonus que vous avez en lien dans les notes d'épisode. Il y a le hamac en fait, je l'ai jamais utilisé. J'ai jamais pu l'utiliser. Alors, je pense que le choix du hamac était potentiellement bon, mais il a ses limites, notamment ses limites de pas avoir un toit sur la tête, la limite aussi de dire on peut pas s'installer dans un camping. Il faut trouver des bons endroits, il y a souvent des endroits où je suis arrivé notamment cet été sur le voyage à vélo où les aires de repos et tout, il y avait souvent des vannes qui étaient garées entre les arbres Et donc ça, c'est un vrai truc. Hein, c'est, voilà. Et puis, dans d'autres trucs où il y a des arbres intéressants, il y a aussi des vaches, des animaux. Enfin, voilà. Donc, et puis, quand on arrive à 23h, bah, on ne peut pas demander à quelqu'un si on peut s'installer dans son jardin où il y a des arbres. C'est pas possible. Donc voilà, donc ça c'est un peu les créneaux. Et c'est vrai que souvent je voyais sur le bord de la route, notamment sur la route haute le long de la Loire, souvent quand je roulais de nuit, je voyais des tentes qui étaient plantées dans les champs à côté, dans les bouts de forêt, je voyais des tentes qui étaient plantées. Beaucoup sur le voyage, j'étais sur le Gravelman, j'ai discuté avec quelques-uns qui étaient soit qui n'avaient rien, soit qui avaient couverture de survie seulement, soit qui avaient un bivy. Mais en tout cas, enfin voilà, il y a plein de variations. Peut-être que le hamac que j'ai pris était peut-être un poil lourd. En fait, je l'avais pas estimé. Sur le coup, je trouvais que c'était pas très lourd. Puis une fois mis sur le vélo, je trouvais qu'il était lourd et qu'il prenait de la place. J'ai pris en fait, j'avais pris. Il y avait deux tailles. Il y avait une question d'attache en fait. C'est-à-dire que je trouvais que la petite taille avait un souci, c'est que les attaches étaient. Il fallait rajouter des attaches complémentaires et tout, et puis il était un peu court pour bien se reposer pour ma taille, donc j'ai pris une taille un peu plus grande, et la taille un peu plus grande était peut-être un peu grande. Par contre, il y a des attaches qui étaient plus costauds, en fait, vraiment plus costauds pour attacher et tout. Donc il y a un choix en fait là-dessus qui est à refaire. Je le dis, hein, c'est que si l'an prochain je repars en aventure bikepacking, je suis pas certain de partir en hamac. Voilà, je suis pas certain de partir avec le hamac. Je pense que je partirais plutôt avec une petite tente, un truc un peu vraiment compact qui permet de poser un peu n'importe où. Et notamment qui permet de s'installer s'il pleut, ben, d'avoir un bout de toit, quelque chose à l'abri et tout. Mais j'ai croisé des gens cet été sur les routes. Notamment, j'ai croisé, quand j'étais en gare, c'était à Bordeaux. Je crois que c'est à Bordeaux ou c'est à Limoges, je les ai croisés, c'est ce papy. 80 ans, autour de 80 ans, et qui il venait de faire une traversée du style Strasbourg, Bordeaux, je crois, oui, donc c'est à Bordeaux, je les ai croisés, en affaire, en fait, ils avaient juste une petite sacoche, et ils dormaient avec sa compagne, ils dormaient devant les églises, les porches des églises, les trucs comme ça, ils avaient rien, quoi, ils avaient en mode ultra léger. Donc ce qui montre aussi qu'il y aurait des moyens d'avoir un truc qui soit moins confort, en disant bah tiens, il y a une halle dans un truc, je peux dormir là-dedans. Et dans les faits, c'est ce qui s'est passé, parce que j'ai une question d'Emilie qui m'a été posée. Elle me dit: où et comment as-tu dormi? Donc je rappelle en fait que, alors, sur le Gravelman, j'ai dormi à l'abri d'un office de tourisme, dans un petit truc là, un petit hall, enfin un hall, pas un hall, mais comme si c'était en fait c'était une ancienne gare. Donc vous imaginez, les gares, là, il y a des trucs là pour se protéger de la pluie. Donc l'arrière, il y avait ça. Donc c'était à l'abri. Donc imaginez, vous dormez sur le quai d'une gare désaffectée, avec un abri au-dessus de la tête pour éviter de prendre la flotte. J'ai dormi sur des bancs pendant mon voyage vélo. J'ai dormi sur des bancs, j'ai dormi dans la forêt, par terre dans des parcs de jeux pour enfants. J'ai dormi sur une terrasse de bar. J'ai dormi aussi dans un hôtel. J'ai dormi aussi, j'étais accueilli une fois. Je remercie encore une fois plus Marie pour l'accueil, parce que ce jour-là, c'était une journée qui a été vraiment super compliquée au niveau du temps et la fatigue. Et alors que c'était ma journée la plus courte en kilométrage, paradoxalement, mais j'étais arrivé totalement cuit. Et puis le lendemain, il y avait une belle journée qui attendait aussi. J'ai dormi, la nuit dans la forêt, par exemple, des Sables d'Olonne. Il faisait de la tempête, du vent, etc. Mais là, il faisait extrêmement, on était bien dans la forêt, il faisait chaud, il n'y avait pas de flotte, etc. J'avais très bien dormi. Jusque ressortir de la forêt en vélo, c'était juste la galère pour retrouver le bon chemin. Voilà, il y a des trucs comme ça. J'entendais la mer, j'ai bercé par le bruit de la mer. Je pourrais dormir une fois que je serais le long de l'océan. Comme il y a des endroits où on pourrait dormir dans les dunes, des trucs comme ça. J'avais cherché des endroits comme ça et tout. Mais dans tous les cas, c'était souvent ce qui était plus nécessaire, c'était de dire: il faut un endroit, avoir un truc sur la tête pour protéger un peu l'humidité de la flotte, etc. Voilà. Et puis la couverture de survie réutilisable, à mon avis, c'est un indispensable. Peut-être qu'il y a un truc, je me suis rendu compte, parce que quand j'ai dormi là avec sur le Gravelman, là, il y avait deux gars qui m'ont rejoint. Eux, ils avaient un petit matelas gonflable, et je pense que ça, en fait, c'est une bonne astuce, une bonne solution. C'est-à-dire, un petit matelas gonflable, ça prend pas de place une fois, il faut souffler dedans pour le gonfler, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ça prend pas de place. Une fois replié, ils avaient des affaires qui étaient vraiment petites. Ça, plus le sac de couchage, la couverture de survie, il n'est pas du tout impossible que ça soit suffisant sur des aventures estivales. Alors après, sur automne et tout, là, je pense qu'il faut vraiment avoir une tente, un truc sur la tête, etc. Mais sur l'aventure estivale, je pense que c'est intéressant. Et puis, bien sûr, j'avais dit, hein, et ça, c'est un bilan, c'est que il y a peut-être une question de dire dormir en Airbnb, dormir dans des gîtes, voilà, en prévoyant un petit peu le truc. Je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire. Moi, j'étais parti sur un mode plutôt aventure, en dormant quand j'étais fatigué, en me testant, etc., sans plan de marche, sans prévoir les trucs. Sur le Gravelman, il y a des gens qui avaient réservé des hôtels. Stephen Ulrich le dit, hein, il dit aussi, réservez vos hôtels, regardez où vous pouvez dormir, prévoyez des étapes. Si vous voulez, vous pouvez dormir à l'hôtel, réserver. Donc, il y a des gens qui avaient réservé des hôtels. Moi, j'ai dormi à Le Neubourg, dehors. J'avais des petits points sur la carte, qui étaient pas très loin, qui étaient à 200, 300 mètres. C'était des gens qui dormaient à l'hôtel. C'est une stratégie aussi, hein. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à l'hôtel genre 20h, 21h, ils avaient mangé au sec, séché, et puis dans la nuit, ils étaient repartis à 3-4 heures du matin, je crois. Quelque chose comme ça, en discutant avec eux, je les ai croisés plus tard. C'était une stratégie, voilà, c'est une stratégie. Chacun a ses stratégies différentes, etc. Ça va bien sûr avoir un impact sur le matériel, sur le repos, sur plein de choses, parce que, par exemple, l'avantage de dormir à l'hôtel, c'est qu'on peut prendre un petit déjeuner. Alors, il faut pas partir à 3-4 heures du matin, mais si tes déjeuners servis à 6h, on dit, on fait un petit déjeuner entre 6h et 7h. 7h, je pars pour un gros petit déjeuner qui évite un arrêt boulangerie, qui peut éviter aussi de dire, tiens, je prends de quoi me faire un porridge, etc. Donc, je crois que, globalement, moi, je l'avais fait. J'ai pris des affaires pour être en mode autonome. Voilà. J'avais de l'alimentation pour être autonome. J'avais, comme je l'ai rappelé même, hein, sur le voyage à vélo, à La Rochelle, j'avais Happy Run, Nutripure. J'aurais demandé une livraison Nutripure qui m'avait envoyé des barres protéinées, il m'a envoyé des sachets de protéines en poudre, etc., pour pouvoir me ravitailler, pour pouvoir avoir de quoi manger sur la fin de l'aventure. Donc, moi, j'avais choisi un mode plutôt autonome, en ayant calculé, en disant, en quantité de protéines, j'ai tant de sachets, donc il suffit que j'ai de l'eau et j'aurai une boisson énergétique, une boisson protéinée, j'ai des barres protéinées, j'ai des oléagineux, j'ai de quoi me faire un repas chaud, j'ai de quoi me faire un truc, me réchauffer avec du café s'il y a besoin pour avoir une dose de caféine, etc. Donc j'avais cette autonomie totale que je voulais en fait, et je la voulais sur le voyage bikepacking de cet été, et j'ai choisi de l'avoir sur le Gravelman en disant je ne sais pas trop comment prévoir les choses, etc. Forcément, il y en a qui peuvent, j'ai beaucoup beaucoup plus léger, j'en ai vu certains qui avaient à peine une sacoche, franchement, qui avaient juste de quoi mettre de l'alimentation, qui avaient à peine une sacoche avec de quoi bricoler. Et oui, c'est ce que j'ai pas dit dans le matériel aussi, bien sûr. Il y avait deux chambres à air de rechange, matériel, etc. Donc j'ai perdu mon multitool sur la route, mais j'avais ma petite pompe, j'avais de quoi changer, réparer, je rustine si besoin, etc. Enfin voilà, tout ça. Donc équipement pour réparer le vélo, très classiquement, quoi. Et je le dis, hein, pour répondre à une des questions de tout départ que je me posais sur le podcast, je suis toujours en chambre à air, je suis pas en tubeless, donc je suis toujours en chambre. Mon nombre de crevaisons sur les 4400 km, c'est 3 crevaisons, ou 4, je suis en train de calculer. J'ai crevé une fois pas très loin à l'entraînement, j'ai crevé sur le voyage à vélo dans Bordeaux, probablement au moment où j'ai pris le tramway, en tout cas une crevaison lente dans cette zone là j'ai crevé une fois le Neubourg sur le Gravelman à l'avant, et j'ai crevé une fois à l'arrière sur le Gravelman. Donc 4 crevaisons en 4400 km, c'est pas si énorme que ça. Une chambre, ça change vite, ça s'achète vite, ça se répare vite, l'un dans l'autre. J'ai pas non plus l'impression d'avoir tant déglingué le matériel, etc., que ça. Il y a eu un message de quelqu'un qui marquait sur Gravelman sur le WhatsApp qui avait dit je quitte la trace gravel parce que j'en ai marre, j'ai trop crevé, j'ai plus de quoi changer j'ai plus de mèche pour réparer, j'ai plus rien pour réparer, je passe sur la trace route. Il avait dit j'ai crevé 7-8 fois ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est aussi la manière de rouler de certains, hein, qui est une manière de rouler plus vite, descendre plus vite, taper plus fort dans les caillasses, donc forcément ça casse. Et c'est Nuri qui avait dit d'ailleurs, si vous crevez beaucoup sur la trace gravel, c'est pas à cause de la trace, c'est à cause que c'est pas roulant gravel. Bon, bah moi j'ai pas tant crevé que ça. En plus il y a une crevaison qui est très sûrement due au fait que mon pneu arrière était vraiment très abîmé, qu'il est fini par être devenir lisse même sur les derniers kilomètres. Donc il est vraiment très très abîmé. Donc là je pense que ça vient de ça aussi, c'est-à-dire que la moindre petite écharde devient problématique. Mais c'est pas non plus une quantité énorme, et le gros avantage c'est que ça change très facilement. C'est pas si compliqué que ça à faire et tout. Donc peut-être que c'est des crevaisons que j'aurais pas senti si j'étais en tubeless. Mais sur la globalité, on m'avait promis l'enfer, on m'a dit ouais, tu vois, à chaque fois il y a beaucoup de gens qui avec les chambres ont des problèmes et tout. Sur la globalité, je peux pas dire que c'est ce qui m'est pénalisé. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs qui m'auraient manqué? Non. Est-ce que j'ai pris des trucs en trop? Bah toujours, hein, on peut dire, peut-être un t-shirt que j'ai pas utilisé. Enfin, j'avais appris. Et encore que sur Gravelman, si j'ai pris un t-shirt de rechange, un t-shirt coton sec. J'ai pris un petit t-shirt manche courte, un petit peu de seconde peau, que j'ai pas utilisé. Par contre, j'avais acheté un t-shirt manche longue pour me protéger du froid. Et là, j'ai bien fait de le prendre. Pour la nuit, c'était vraiment plus confortable. Et puis, je pense que vraiment, vraiment, il y a un truc qui m'a vraiment, vraiment cool. J'ai pris une veste et qui est obligatoire d'ailleurs dans la liste du Gravelman. C'est une veste pluie qui est assez, qui est compacte, qui se replie bien. Alors, c'est une veste Evadict chez Decathlon en fait, hein, mais qui a un truc, c'est que elle a une qualité de protection de l'eau qui fait qu'elle est homologuée pour les courses type trail, etc., qui demandent des protections particulières. Donc elle est homologuée, puis au lieu de coûter 200 balles, elle coûte 70. Et d'ailleurs, quand je l'avais acheté au magasin, elle m'a dit oui, mais elle dit chez Ouellet, elle me dit tous les gens qui préparent des trails, etc. Et ceux qui viennent la chercher, c'est des gens qui préparent des trails et qui ont un matériel obligatoire qui mentionne cette qualité particulière. Et donc je l'ai vraiment vraiment super apprécié, que ce soit sur cet été ou sur le Gravelman. J'ai vraiment vraiment beaucoup apprécié, notamment pour me mettre à l'abri quand il était humide, la nuit aussi pour dormir. Des fois je me suis mis dedans pour dormir, pour tenir au chaud et tout, le petit matin, parce que c'est toujours le petit matin, il fait plus frais, hein, vous savez, sur le point de Rosée, il fait toujours frais vers 6-7 heures du matin, là, 5-6 heures, 7 heures au lever du soleil, dans ces zones-là, il fait toujours frais. Et ben là, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Donc ça, c'est vraiment le truc indispensable, en fait, je pense. Et il y a un truc que j'ai acheté, que je n'ai jamais mis, avant le Gravelman Auvergne, il y avait beaucoup, beaucoup de pluie, il pleuvait beaucoup, j'avais acheté un pantalon de pluie, et en fait je ne l'ai pas utilisé, mais alors vraiment j'avais acheté en me disant bah, je le mets dans la sacoche, si jamais il pleut beaucoup et tout, je le sortirai. Et en fait oui, il pleuvait beaucoup, mais en fait alors sur le Gravelman Auvergne j'avais un pantalon long, un cuissard long, sur le Gravelman j'avais un court, et ça sèche très vite, alors les pieds ne sèchent jamais. Donc je n'avais pas de protection de pied ou quoi que ce soit. De toute façon, j'ai dit, une fois qu'on a mis les pieds dans l'eau, bah, on est tellement trempé que de toute façon ça séchera jamais. Et effectivement, ça sèche pas. Donc j'avais pris, et ça c'est un conseil que je peux donner, hein, c'est que avoir au moins une deuxième paire de chaussettes, mais peut-être en avoir trois paires de chaussettes, sur en tout cas quand on part comme ça, ou alors faut vraiment prévoir un moment de lessive, etc. Moi, j'avais mes chaussettes à Nantes, je me rappelle. À Nantes, j'avais dormi dans un hôtel. À Nantes, j'avais pas pris de douche jusque pour arriver à Nantes. Je m'étais trempé un peu, je m'étais un peu lavé les dents, un truc comme ça, mais j'ai dormi que dehors, en fait, jusqu'à maintenant. Et donc à Nantes, le truc que j'ai fait, c'est que je me suis foutu sous la douche, je pense presque habillé, quoi. Et l'eau était marron quand elle sortait, enfin tout. Après, j'avais fait tremper encore le cuissard, j'avais trempé le maillot, tremper les chaussettes, tout était marron, et puis j'avais fait sécher ça tranquillement, et donc j'avais pris, j'avais des affaires pour avoir un truc qui se sèche pendant que l'autre j'allais sur moi, etc. Et je pense que les chaussettes, si j'avais une, j'étais parti avec deux paires de chaussettes sur le Gravelman, deux paires de chaussettes sur le voyage à vélo cet été, si j'en avais une troisième, je pense que ça aurait pu être cool. Pour avoir la rotation, c'est-à-dire une sur les pieds, une qui sèche et puis qui est utilisée, qui est en train de sécher. On peut mettre sur le truc à l'arrière, sur le sac à l'arrière. Ça fait un peu un peu bizarre, une drôle de décoration, mais c'est pas très grave. Mais en avoir une perte sèche pour par exemple un soir, un truc comme ça, si on veut vraiment changer, etc. C'est vraiment le truc. Je l'avais pas prévu sur cet été parce que pour moi au départ, je prévoyais d'avoir plutôt du beau temps. Voilà, plutôt du beau temps. Ce qui m'amène à la question de Valou qui m'a demandé si on n'avait pas trop bavé avec le temps. Alors sur le voyage à vélo, j'ai passé plusieurs jours. Effectivement, c'est que plus j'avançais vers l'océan et plus j'avais le vent de face et plus j'avais la tempête. Avec un summum qui était la journée pour arriver à Saint-Brévin et puis pour la journée pour partir de Saint-Brévin. Je m'arrête notamment à la tranche sur mer. C'est une tempête mais incroyable. À Jarre-sur-Mer, je passe 2 heures ou 3 heures dans un bar à boire 2 cafés, à manger un croissant en attendant qu'il s'arrête de pleuvoir un tout petit peu et de repartir sur la flotte. Et puis après, heureusement, dans la suite de la journée, il s'est mis à faire meilleur. Donc là, ça m'avait un petit peu ralenti aussi. Saint-Brévin, pour arriver à Saint-Brévin, je le dis, entre Nantes et Saint-Brévin, il y a officiellement, je crois qu'il y avait 80-90 km selon le plan. J'ai mis un temps mais hallucinant. Pour faire un truc, j'avais dit ouais, ça va mettre 4 heures. En 4 heures, j'y suis. À Nantes, j'ai pris le temps. Le matin, j'avais couru tranquillement dans un parc. J'avais fait ma petite lessive, enfin, séché les trucs. J'avais bien chargé le vélo. J'avais tout rééquilibré. J'ai pris mon temps et tout. À l'hôtel, j'aurais demandé si je pouvais partir un poil plus tard. Enfin, j'ai tout fait. Et puis après, dans Nantes, j'étais allé m'acheter, j'étais allé manger une glace, j'étais allé chercher un peu à manger, j'ai pris un sandwich, j'ai acheté un petit carnet, je m'étais trouvé un petit carnet d'aventure dans lequel je note un petit peu les étapes, un petit peu mes ressentis et tout. Et d'ailleurs, que j'ai amené, sur le Gravelman, il y a un truc aussi que je dois dire, c'est que j'avais un bouquin, un carnet pour prendre quelques notes, que j'ai utilisé notamment le lendemain matin à Deauville, etc., que j'ai utilisé dans le train, que j'ai pris des notes tout dessus. Et puis le bouquin aussi, c'était pour éviter d'être toujours sur le téléphone, pour au moment faire une pause, d'être pas sur le téléphone mais pour prendre un peu le temps de lire et tout. Puis j'avais les transports en train, enfin voilà, donc j'avais un petit livre qui prenait pas beaucoup de place et petit carnet qui prenait pas beaucoup de place. Et donc ce carnet, en fait, j'ai trouvé à Nantes, qui est un carnet d'aventurier qui craint pas de la flotte, tout, on peut même l'effacer, c'est du papier de verre. J'avais pris ça. Et puis l'un d'entre vous m'avait fait une trace en disant bah tiens, faut passer voir ça, voir l'éléphant, voir ce truc là, voir la tour de ça et tout. Donc j'avais fait tout ça, et puis après, je me suis retrouvé dans une grande ligne droite, avec un vent de face pas possible, ça avançait plus, la flotte, etc. Et j'ai l'impression que c'était juste interminable. C'est-à-dire que je suis arrivé le soir, je pars à... Bon, le temps de faire mon petit tour et tout, je dois partir à 14h de Nantes. J'arrive à Saint-Brévin, je crois que c'est entre 20h et 21h, pour faire 90 km. Donc 7 heures, ce qui donne, et c'était de la route. J'ai pas pris un bout de chemin, c'était que de la route, la piste cyclable et tout. Mais c'est de dire en fait la difficulté de cette journée là. Et donc, cette journée là, j'étais épuisé. Donc, le soir, quand je suis arrivé, j'étais bien content d'avoir un toit sur la tête en plus. Et donc, je remercie encore Marie parce que vraiment là, sur ce coup là, c'est vrai que ce jour, il faisait vraiment un temps, mais c'était hallucinant. Et puis le lendemain, bah, repartir dans la tempête, la flotte et tout. C'était le jour qui était un peu compliqué. Il y a eu la nuit aussi après La Rochelle, quand je suis allé à direction Royan, où il pleuvait plein temps, où il y avait même de la brume. À un moment donné, je me dis mais je suis où et tout. Mais finalement, où j'avais fini par arrêter de rouler, parce qu'il y a des montées, il y a des trucs comme ça, il fallait trouver les passages pour traverser la Charente par endroits, il y avait une histoire de viaduc à passer, enfin des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, j'avais dit bah j'arrête, je suis trempé, je suis cuit, donc j'ai dormi sur un banc, j'ai pas si mal dormi que ça. Puis le lendemain matin, j'étais parti. Et il commençait à faire beau, et donc après la dernière journée, j'ai eu du beau temps, j'ai eu du soleil et tout, donc ça avait tout rattrapé. Mais ce que j'en ai bavé avec le temps, bah franchement, j'en ai beaucoup plus bavé sur le Gravelman que sur le voyage sur les 10 jours de l'été, ça c'est sûr. Sur le Gravelman, ce qui m'en a plus fait baver, c'est oui, le temps, la flotte, la boue, puis les caillasses, cette alternance comme ça. Il y a eu des moments, en fait, et je le dis sur Gravelman, il y a un moment ou deux où il y a des arrêts dans des villages où je m'étais arrêté pour manger, pour prendre des trucs et tout, où là, je m'étais dit, je retrouve un peu le truc backpacking qui me plaît, c'est-à-dire m'arrêter dans un village, prendre un café, manger un truc, repartir. 8. Et puis au village suivant, refaire, etc. Ce truc-là et tout. Ça m'avait plu. Mais ce qui m'en a fait baver sur le Gravelman, c'est l'enchaînement des terrains, c'est le type de terrain, c'est la recherche de la difficulté pour la difficulté. Et pour le voyage en vélo, ce qui m'avait fait baver un petit peu, c'était c'est l'enchaînement des journées, en fait, on va dire. Et puis c'est ces 2-3 jours de grosses tempêtes là, qui ont été vraiment avec vraiment du. Même à Montalivet, je me rappelle que Montalivet, le matin, il y a du soleil. Et je m'arrête et tout. Et puis au moment de repartir, il y a un gros orage. Je dis, ah mince. Autour de la Lacanau aussi, c'était des trucs qui étaient amusants. Enfin, amusants. C'était il faisait grand soleil, puis d'un coup, il se mettait à pleuvoir, mais vraiment très très fort d'un coup, comme une douche. Et puis après, il remettait à faire re-soleil quelques minutes plus tard. Et donc, il y avait cette alternance entre dire, mais je reste mouillé, je fais quoi? Et en fait, ça séchait. Dès que je me mettais à rouler, ça séchait super vite. Donc, est-ce que j'en ai bavé? C'était chiant, quoi. C'était pénible. Et puis, il y a toujours, ça arrêtait pas de monter, de descendre, de monter, de descendre. Un bon préambule, hein, à ce qui allait se passer après sur le Paris-Deauville. Mais, voilà, je peux pas dire que j'en ai bavé, en fait. Je dirais que c'était plutôt pénible sur l'instant. Mais c'était amusant parce que l'eau était même chaude. Cette sensation de rouler de l'eau chaude. Après, je l'avais eu aussi sur l'entraînement. J'ai pris des orages. J'avais pris tout un tas de choses. Donc, je crois que c'est le jeu en fait. C'est un moment, c'est le jeu. Ça fait partie du jeu et je pense que, en tout cas, mes préparatifs m'avaient bien préparé pour pas mal de choses. Bon, mis à part l'enchaînement de terrain compliqué. Mais je le redis, je le répète, hein, je pense que sur la préparation Gravelman, on se focalise beaucoup sur le fait de rouler, mais il faudrait surtout se demander comment passer à des endroits où on pense qu'on ne passe pas en vélo. Voilà, je pense que c'est ça le vrai entraînement. Et c'est le plus compliqué. Et puis après, j'ai deux autres questions pour terminer. Zampo Mudati qui m'a posé une question. Tu t'es amusé à fond. Et puis Xavito qui m'a demandé si j'ai kiffé et qui m'a dit un grand bravo, tu partis à l'aventure. Et est-ce que je me suis amusé à fond? Je me suis beaucoup amusé sur le voyage à vélo, je me suis moins amusé sur Gravelman, voilà, c'est le truc, mais par contre, je peux dire que c'est, je le répète parce que c'est un élément qui est important, si je n'avais pas eu l'idée de faire le Gravelman, rien de tout ce qui s'est passé sur la préparation Gravelman, et notamment le voyage en vélo, backpacking, le fait que vous voyez aussi faire le vélo, certains d'entre vous, le fait d'avoir découvert de rouler, le fait d'avoir redécouvert le vélo, le fait d'avoir roulé sur des chemins au lever du soleil, au coucher du soleil, d'avoir roulé, d'avoir découvert des nouveaux trucs en vélo, d'avoir fait tout ça, d'avoir fait cette aventure vélo de l'été et tout ça n'aurait pas été possible. Donc, je suis je remercie en fait Stéphane Laric, son équipe, d'organiser tout ça. Je remercie le Gravelman d'exister parce que c'est ma volonté d'aller faire Gravelman qui m'a offert en fait les moments de kiff que j'ai vécu avant en fait. Voilà. Et ça c'est un truc qui est important que j'ai bien en tête et tout. C'est que si je n'avais pas fait le Gravelman, si je n'avais pas préparé le Gravelman en fait, rien de tout ça ne serait arrivé. Et si je n'avais pas préparé le Paris-Deauville et si je n'avais pas eu me dire pour préparer le Paris-Deauville, je sens que j'ai besoin de faire un truc, de rouler 350 sur 2-3 jours, d'enchaîner, de tester ce que ça fait de rouler de jour, de nuit, de dormir dehors, etc., de tester tout ça. Toute l'aventure vélo n'aurait pas eu lieu en fait. Voilà. Donc et tout le grand moment de kiff n'aurait pas eu lieu. Ce grand plaisir de rouler le long de l'océan n'aurait pas eu lieu, cette dernière baignade à Lacanau n'aurait pas eu lieu, cette grande ligne droite entre Lacanau et Bordeaux qui est tellement agréable sans voiture. Et là, vous allez réécouter l'épisode, mais c'est vrai que il y a une piste cyclable entre Lacanau et Bordeaux où il n'y a aucune voiture, donc qui est très agréable, mais c'est une grande ligne droite où il y a 30 bornes sans virage, à peu près, donc c'est assez ennuyeux quand même. Mais bon. Tout ça rien de tout ça ne serait arrivé en fait, et tous ces kiffs-là ne seraient pas arrivés. Mes churros ne seraient pas arrivés. Je sais plus où j'ai mangé des churros. Au Sable d'Olonne, il y avait les concerts et tout, je les aurais pas vus. Ma glace à La Rochelle ne serait pas arrivée. Rien de tout ça, rien ne serait arrivé. Et donc, franchement, voilà, c'est le bilan de l'aventure, c'est que grosso modo, l'aventure Gravelman, c'est que ça m'a permis de redécouvrir le vélo, ça m'a permis de me remettre au vélo et de redécouvrir les plaisirs du vélo, de de me rappeler que mon enfant, que j'étais, adorait faire du vélo, que mon enfant intérieur a besoin de ce moment à vélo, que c'est grisant de rouler à 30 ou 40 à l'heure à la force de ses jambes, que c'est grisant de se dire on a fait 100 bornes, 200 bornes à vélo, que c'est grisant de se dire je peux partir 3-4 jours en vélo, dormir, manger, revenir et tout, et que c'est sympa, qu'il y ait des distances qui nous paraissent faisables qu'en voiture, qui finalement on peut les faire en vélo, qu'avec un peu d'imagination on peut s'aventurer des nouvelles aventures, et que on a des aventures de course à pied, des aventures de trail, des aventures à vélo c'est encore autre chose. Voilà, c'est un autre monde, et donc c'est mon grand bilan en fait de cette aventure, de ces mois en fait à préparer ce Gravelman et à vivre ce Gravelman. Alors maintenant, bien entendu, la question de la suite va se poser. Je vous ai posé la question de la suite, etc. Si j'étais vraiment fan des dates, en fait, je pourrais dire que normalement, il faudrait que je fasse un autre épisode la semaine prochaine, un dernier épisode bilan, etc. Pour l'instant, je l'ai pas en tête, mais si vous avez un sujet à aborder, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, c'est la fin de la saison du podcast, c'est-à-dire que Gravelman, il est passé, quoi. Et je ne ferai pas d'autres Gravelman pour l'instant. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres. C'est terminé en fait. Le projet Gravelman, le projet qui est autour de, sur lequel était ce podcast, est terminé. Alors la question, c'est qu'est-ce qui se passe avec le podcast ? J'ai posé la question cet été sur Instagram pour avoir vos avis et tout. Il y en a une bonne partie qui veut que ça continue. Une bonne partie qui veut que ça s'arrête. Alors, voilà. Et puis ce que je ressens moi, etc. C'est que déjà je vais vous dire un truc, c'est que je vais continuer à faire du vélo et je vais continuer à parler de vélo. J'ai au moins une invitée qui est bookée pour parler, parce que je l'ai croisée sur mon aventure à vélo, et je pense que c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire. Mais je crois qu'en fait, c'est pour l'instant, hein, je vais mettre une pause à ce podcast. Pourquoi ? Parce que je suis un multisport en fait. En fait, je suis pas un cycliste pur, je suis pas un coureur pur. Dans l'année qui vient, je pense que je vais rouler, que je vais courir, que je vais nager. Mes envies, c'est aussi d'aller vers le triathlon. Une question qui s'est posée, c'est de savoir si je crée un podcast dédié au triathlon, et non, j'ai pas envie de créer un podcast dédié au triathlon. Je pense plutôt que c'est Kilomètre 42 qui va évoluer globalement sur un podcast qui est moins running, mais plus course et tout ce qu'on fait autour, l'entraînement croisé, le croisement de tous ces sports, le croisement aussi d'une vision de que bouger pour pas seulement pour faire des temps sur marathon, pas seulement pour faire des temps pour faire des marathons ou faire des courses, bouger aussi pour le plaisir, pour l'aventure, pour se sentir bien, pour se sentir vivant, pour être un vieillard galopant. C'est toutes ces logiques-là que je développe dans Kilomètre 42 depuis pas mal de temps, pour être en santé, pour être sentir en forme, pour se sentir vivant. Voilà. Et donc il y a le vélo, mais je veux pas en fait enfermer, je veux pas m'enfermer dans être un pur cycliste, que je ne serai jamais. J'ai discuté avec un cycliste ou deux pendant que je roulais, il me parlait de développement, de dents, de calcul de dents, de taille de roue, etc. Et tout un tas de trucs dont moi je n'ai rien à faire en fait. Strictement rien à faire, mais vraiment vraiment rien à faire. Je ne dis pas que c'est pas important, mais en tout cas c'est pas l'univers moi dans lequel j'ai envie de me plonger beaucoup plus que ça. Bien sûr, après j'ai des idées d'invités, notamment je voulais parler du vélo féminin, je voulais parler des femmes qui font avancer le vélo, je voulais parler aussi, j'ai vu des gens sur l'évolution des vélos, sur la mécanique vélo, sur certains points, etc. Mais en tant que tel, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Et puis j'ai une grande crainte aussi, c'est que un podcast comme ça, il faut trouver des invités régulièrement. Donc il y aura des épisodes solo toujours pour raconter où j'en suis, mais pour l'instant je n'ai plus rien à préparer, donc c'est déjà, ça vide un peu les épisodes solo. Et puis ensuite il y a des épisodes avec des invités, et ma crainte en fait c'est d'avoir qu'au fur et à mesure de creuser, c'est de trouver des invités qui soient toujours dans le toujours un petit peu plus ça, un petit peu plus ça, etc. Et moi je voudrais aller faire évoluer en fait en disant je voudrais plutôt aller vers le bikepacking en fait, vers tout le truc bikepacking, etc. Mais pas du bikepacking de l'extrême, d'aller dormir, d'aller faire l'Islande en plein hiver, écoute, je sais pas quoi, parce que j'ai vu ça, pas d'aller faire des trucs, mais avoir un bikepacking d'automne quand il fait beau, printemps, été, un truc cool, enfin voilà, vraiment de l'aventure cool, de l'aventure à la portée de tous, de l'aventure où il faut pas des années d'entraînement pour faire, de l'aventure on se dit bah même si ça fait pas longtemps que je roule, je peux le faire et tout. Et donc voilà, ça pose des questions en fait sur l'évolution. Pour l'instant, je n'ai pas de raison de continuer le podcast en tant que tel, et j'ai une crainte surtout, c'est que ça m'amènerait sur aller à la rencontre de personnes que je trouve extraordinaires dans ce qu'elles font, mais dans lesquelles qui je trouve pas inspirantes pour moi, et que j'ai pas envie, voilà, après me dire, bah, j'ai avoir que des ultracyclistes qui font que ça, qui roulent des heures et qu'on peut pas reproduire facilement. Et qui vont faire que de ça. J'ai pas envie d'avoir que de ça. J'ai envie de parler de backpacking. J'ai envie de parler de gravel cool. J'ai envie de parler de vélo de route. J'ai envie de parler de triathlon. J'ai envie de parler de plein de trucs. Et je crois qu'en fait, le truc, c'est plutôt que Kilomètre 42, qui est mon podcast de base, hein, va plutôt grossir et s'épaissir avec la course et le vélo, la natation, le triathlon, et tous les sports que déjà j'ai souvent abordés. Pour une raison aussi, c'est que la plupart beaucoup de gens qui écoutent ne sont pas seulement des coureurs, mais tous finissent, il y en a beaucoup qui finissent un jour par dire, bah, je vais rajouter un bout de vélo, je vais rajouter un bout de ça, je vais rajouter un bout de ça, je vais rajouter un bout de ça, etc. Et que, c'est mon profil, et que c'est le profil, je pense, qu'il y a beaucoup de gens dans mes podcasts qui sont là-dedans, qui sont dans ces profils-là. Et, ce qui veut pas dire que ce podcast est mort définitivement, ce qui veut dire juste que, ben, pour qu'il continue, il faut que je réfléchisse à un nouveau projet et une nouvelle saison, raconter une nouvelle saison. Enfin voilà. Mais qu'en tout cas, je ne le vois pas s'inscrire dans une durée en disant, ben là maintenant, l'automne va arriver, faut que je trouve des nouveaux sujets, des nouveaux invités pour tenir jusqu'à la saison, etc. S'il doit continuer, s'il doit reprendre, ce serait plutôt sur dans quelques mois, sur un nouveau projet, que je raconterai à nouveau de la même manière que j'ai fait là. C'est-à-dire, ben voilà, je vous annonce que je prépare ça, comment je prépare. Quels sont les entraînements, quelles sont les personnes qui peuvent m'inviter à progresser, quoi faire, qu'est-ce que je fais évoluer, etc. De raconter spécifiquement ça. Mais après, pour le reste de ce que je vais raconter sur le vélo, les invités vélo, les invités... par exemple, l'invité que j'ai prévu, que j'ai déjà calé, que j'avais rencontré cet été, franchement, je pense que son message de ce qu'elle a fait et tout peut très bien s'entendre sur Kilomètre 42 pour des gens qui justement se disent, bah tiens, pour moi c'est pas possible de faire du vélo, de partir à l'aventure à vélo, et justement qu'elle pourrait montrer bah, que si, voilà. Et je pense que c'est ça en fait l'évolution en tout cas de ma vie à vélo pendant quelques temps qui vont être que ça, c'est d'avoir en fait cette visibilité, ce truc maximum, et se détendre un petit peu là-dedans, etc., de l'avoir en multisport, en croisement de tout, voilà. Et je pense que tout ça va s'exprimer en Kilomètre 42. Donc voilà, restez abonné au flux, hein. De toute façon, s'il y a de nouveaux épisodes, vous le verrez. Restez aussi sur mon compte Instagram, @BertrandSoulier. Je vous rappelle que dans les notes de l'épisode, il y a un lien vers un document. Alors en fait, il y a une vidéo dans laquelle j'explique mes trois grosses erreurs sur l'aventure bikepacking, plus tout le matériel avec toutes les références, mais vraiment précises de tout ce que j'ai utilisé. Roulez bien, courez bien, amusez-vous bien, kiffez bien. Et puis on se retrouve très bientôt. Très très probablement, d'abord sur Kilomètre 42, ça c'est sûr. Et puis on verra ensuite ce qui se passe pour ce podcast. Ciao, ciao!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.